On a traversé l'océan Atlantique pour vous emmener avec nous à Pointe-à-Pitre.
Antoine Lee, rendez-vous, place du marché.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Vous étiez hier à Bastia avec Aurélie Sfez. On a quitté l'île de beauté pour être aujourd'hui sur une autre île tout aussi belle, la Guadeloupe. Nous avons parcouru 7250 km pour poser nos micros sur le marché aux épices de Pointe-à-Pitre. On est sous une petite halle où une dizaine de commerçants proposent des fruits et légumes de l'archipel. On le rappelle, la Guadeloupe est composée de plusieurs îles. La partie principale, la plus connue, a la forme d'un papillon. Elle est composée de deux îles, la Grande Terre à l'ouest et la Basse Terre à l'est. La Guadeloupe possède des trésors naturels hors du commun. Sa faune et sa flore offrent des paysages dignes des plus belles cartes postales. C'est toujours très étonnant de se baigner avec pour voisin des pélicans à côté de soi. Mais la Guadeloupe, ce n'est pas que ça, c'est aussi une région chargée d'histoire. Pierre-Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes né à Pointe-à-Pitre. Vous avez vécu plusieurs années justement face à ce marché. On peut voir la fenêtre de votre appartement que vous avez occupé pendant plusieurs années.
Exactement, tout à fait, à La Rochelle-Cher.
C'est un marché important ici ?
Ah oui, c'est un marché principal. Quand on parle de Pointe-à-Pitre, on voit le marché à Montréo, mais on voit également le marché aux épices, situé en plein cœur de Pointe-à-Pitre. Et ce marché, c'est littéralement de caisse de résonance en période carnavalesque.
Alors là, il y a des stands où on en prend plein les yeux, il y a plein de couleurs, il y a des épices, il y a du jaune, du rouge, du marron. Là, il y a le stand de Nicaise, parce qu'on voit le panneau « Bienvenue chez Nicaise ». Bonjour, c'est vous ?
Oui, c'est moi, Nicaise.
Bonjour, merci de nous accueillir. Vous êtes ici sur ce marché depuis combien de temps, Nicaise ?
Eh ben, ça fait déjà 40 ans.
40 ans, vous êtes
bien
là ?
Bien sûr, 40 ans. Hein.
Et là, vous avez une plante qui est en fait, on dirait une fleur, donc avec des grandes tiges vertes, avec des petites boucles roses. Ça, c'est pour cuisiner ou ?
Non, c'est pour faire du thé, on fait du jus et on se soigne, par exemple, pour tous les maux. Comme le nom dit, Atumo, c'est pour tous les maux.
Ah, ça s'appelle, cette plante s'appelle Atumo ?
Oui.
Vous connaissez cette plante, Pierre-Jean-François, Atumo ?
Oui, tout à fait, Atumo. Donc, ce sont des plantes médicinales. Et comme son nom l'indique, c'est pour tous les maux. On en fait en tisane, on en fait également en sirop.
Pierre-Jean-François, vous êtes Guadeloupéen et fier de l'être. Ça représente quoi pour vous, la Guadeloupe ?
Ah, la Guadeloupe, c'est toute ma vie. Sans la Guadeloupe, j'ai pas de raison d'être. Je préfère être chez moi au chômage que de travailler ailleurs.
Carrément ?
Carrément, oui.
Pierre-Jean-François, vous allez rester avec nous tout au long de notre émission. Vous allez nous faire découvrir votre Guadeloupe. On parlera du scandale de l'accès à l'eau courante sur l'île. Des jeunes Guadeloupéens viendront aussi nous parler de leur combat contre le dépeuplement de l'archipel. Et l'apéro se fera en musique avec le gros cas et bien sûr avec un verre de rhum avec vous, Pierre-Jean-François, car vous êtes un passionné pour qui ce breuvage n'a aucun secret. Mais avant, on écoute Nick Waterhouse avec Tout Elle, un morceau choisi par Djoubaka.
Are you lost and lonely and low on time? Did you arrive just to wait in line? Are you left thinking that there's no fear there? Well, the people care till they just don't care. My voice and I think I keep it. Did I see you walking while you were sleeping? Did I hear you talking? It's like you got some notion. Do you see a mirror where I see it?
Vous êtes sur France Inter, c'est Rendez-vous Place du Marché à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. On s'est installé juste en face de la halle au marché aux épices. On est à la terrasse du café au pied du fort. Ici, il y a beaucoup de concerts qui sont proposés le soir car Dominique, le patron, est un musicien et un fan de musique. C'est bien ça, Dominique ?
Oui, c'est bien ça. Donc on propose, nous faisons le jam musical tous les soirs, surtout durant les vacances là.
Mais vous-même, vous êtes musicien. D'ailleurs, là, il y a vos amis qui sont là. On rentre dans votre café. Il y a un bassiste, quelqu'un qui joue au piano.
C'est les petits frères d'Alain Jean-Marie, le grand pianiste connu dans le monde entier. Donc, il y a Toto Jean-Marie qui s'appelle Guy Jean-Marie, mais son petit surnom, c'est Toto. Et nous avons Patrick Jean-Marie qui est au piano et moi à la batterie avec eux.
Je vous laisse vous installer. On va avoir un petit aperçu de ce qui se fait ici dans votre café au pied du fort.
Antoine Lee sur France Inter.
Pierre-Jean-François est toujours avec nous. Vous nous parlerez tout à l'heure de votre passion pour le rhum. Mais tout de suite, on accueille Jean-Marie Flower. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écologue, c'est-à-dire vous êtes un scientifique expert en écologie. On vous a invité pour nous parler d'un problème qui pourrit, il n'y a pas d'autre terme en l'occurrence, qui pourrit donc le quotidien d'une grande partie des Guadeloupéens. Ce problème, c'est l'accès à l'eau potable. Ce qui est simple et évident en métropole ne l'est pas ici, Jean-Marie Flower.
Oui, effectivement, et c'est quelque chose qui a mis du temps à s'installer. Les premières alertes un peu citoyennes, ça remonte à plus de 30 ans. Et puis, ça s'est étendu petit à petit à quasiment à l'ensemble de l'archipel, en commençant par les îles les plus excentrées, donc la Désirade, les zones les plus éloignées du château d'eau, de la Basse-Terre, donc le Nord Grande-Terre, Anse-Bertrand, Saint-François. Et puis, de fil en aiguille, on a atteint même Saint-Claude, qui est pourtant la commune la plus élevée, la plus, normalement, la mieux approvisionnée en eau. Eh bien, il se trouve que depuis quelques mois, elle est aussi sujette à des baisses de pression d'eau dans les robinets. Et donc, ce sont des tours d'eau qui ne disent pas vraiment leur nom et qui touchent, grosso modo, probablement plusieurs dizaines de milliers, peut-être même une centaine de milliers de foyers guadeloupéens.
Et ça représente deux tiers du territoire, ces problèmes d'accès à l'eau ?
Oui, grosso modo, là, il y a à peu près 150-170 000 foyers, et donc autour de 100 000, plus ou moins, foyers qui seraient touchés par des restrictions plus ou moins pérennes, plus ou moins temporaires, à des moments de l'année ou tout au long de l'année. Donc quand on cumule tout ça, on arrive effectivement à ces chiffres très très impressionnants.
Et il y a un autre chiffre qui est incroyable, c'est que 60% de l'eau captée dans les rivières ou les nappes phréatiques se perdent dans la nature avant d'arriver dans les robinets. C'est un gâchis incroyable ça.
Effectivement, et le chiffre est même revu à la hausse. On parle plutôt de 65 à 70%, et ça dépend un peu des portions des réseaux. Et ça veut dire que si chaque Guadeloupéen consomme à peu près 180 litres tous les jours, nous sommes à 370, 371 000. Donc tous les jours de l'année, ça fait qu'on consomme à peu près 24 milliards de litres d'eau. Donc les pertes sont autour de 50 milliards de litres chaque année.
Concrètement, comment ça s'illustre ces problèmes d'accès à l'eau potable ? C'est qu'il y a des coupures d'eau ? Comment ça se passe ?
Alors effectivement, les réseaux d'adduction d'eau ont été dessinés en fonction d'une certaine population et en fonction d'une certaine pression de soutirage. Des zones qui étaient peu construites ont vu le nombre de constructions augmenter et souvent, les habitants n'ont pas fait de demande de raccordement correspondante au réseau. Ils font des branchements sauvages ou alors les demandes arrivent tardivement, mais du coup, le gestionnaire de réseau n'a pas eu le temps d'anticiper. Et on se retrouve avec beaucoup plus de personnes sur un réservoir donné, par exemple. Ce qui arrive, c'est que quand les quantités prélevées sont supérieures à ce qui est réellement disponible. Donc on n'a pas d'abord des coupures, on a d'abord des baisses de pression, notamment pour tous les points qui sont en bout de réseau.
C'est-à-dire que lorsqu'on allume son robinet, on ouvre son robinet, il y a tout petit filet.
Qui coule, effectivement. Et puis le résultat logique de ça, c'est que quand il n'y a plus de filet, il n'y a plus rien du tout. Et ça peut durer plusieurs jours d'affilée dans certaines régions des grands fonds.
Il y a aussi un problème de vétusté du réseau, des canalisations.
Alors bien entendu, on est en climat tropical, tropical humide, donc ça veut dire qu'il y a de la corrosion, on est en zone également sismique, donc il y a des micro-séismes qui font que ce soit les bâtiments ou les infrastructures de réseau, ben tout ça, ça s'use. Il était prévu de remplacer à peu près, alors entre 5 et 10% du linéaire de tuyauterie dès leur installation, dès les années 50, dès le début de la départementalisation. Et en fait, ça peut être commencé, mais en tout cas, ça s'est très rapidement arrêté. Et donc, les canalisations, la plupart aujourd'hui, elles ont 50, 60, parfois 70 ans d'âge.
Ouais, le problème n'est pas nouveau. Jean-Marie Flower, justement, comment les Guadeloupéens, touchés par ce problème d'accès à l'eau, comment ils se débrouillent? Comment ils font? C'est le système D, qu'est-ce qui se passe?
Il y a une solidarité entre voisins, ceux qui ont une citerne, ceux qui ont eu le temps de faire des réserves, ceux qui ont plus de moyens que d'autres. Mais ça se limite à quelques litres par personne et par jour. Alors que les besoins, on l'a vu, c'est plutôt autour de 150, 170, 180 litres. On ne peut plus se laver correctement, on ne peut plus faire la vaisselle correctement, la lessive. Et donc ça demande vraiment des choix, des arbitrages. Et c'est très compliqué quand on a des personnes vulnérables, par exemple, qui ont besoin de soins ou des jeunes enfants pour lesquels l'hygiène est très très importante. Et encore plus en temps de Covid, bien entendu.
Mais ça veut dire quoi que les gens, ils ont des bacs, des citernes, des bouteilles d'eau dans lesquelles ils stockent le maximum d'eau de pluie? Comment ça se passe? On a du mal à l'imaginer lorsqu'on n'est pas confronté à cette situation, lorsqu'on vient de la métropole.
Alors il y a deux types de réserves. Il y a des réserves d'eau de ville. Quand on a de l'eau, on profite pour remplir des bouteilles, des bidons, des seaux, etc. J'ai de l'eau maintenant, mais j'en aurai pas plus tard. Donc je fais mes réserves. Et puis il y a un autre système qui est vraiment le système qui utilise l'eau la moins chère, c'est l'eau de pluie. Dès qu'on a un pan de toiture, on essaie d'y mettre une gouttière et de récupérer dans une jarre, dans une citerne, de l'eau de pluie qui n'est pas potable parce qu'elle est insuffisamment minéralisée, mais qui peut être potabilisée. Et là, à ce moment-là, on revient au système qui a été celui des premiers habitants. Dès qu'il y a eu de la colonisation, on a commencé à mettre des citernes. Les forts du Lillet-Cabri au Sainte, de Basse-Terre, ont des citernes. Et cette eau peut être potabilisée. On l'équipe de filtres à charbon actif et de filtres à UV pour la rendre vraiment potable. Et ça revient à 1000 euros, maximum 1000 euros par personne, donc c'est pas une somme anodine, mais c'est trois fois moins que si on devait répartir le milliard d'euros qui est nécessaire pour réparer le réseau sur les 370 000 Guadeloupéens. Donc c'est vraiment une solution efficace et qui en plus est garantie sans chlordécone.
Ce pesticide ultra toxique qui a été utilisé pendant 20 ans dans la culture de bananes.
Oui, tout à fait, entre 1972 et probablement
1993.
Bien après 1993. Ça a été arrêté officiellement en 1993, mais on a encore retrouvé des stocks dont on se doute qu'ils sont utilisés plus ou moins.
Il y a une chose incroyable qui a été mise en place pour pallier à ce problème d'accès à l'eau potable, ce sont les tours d'eau solidaires. Qu'est-ce que c'est ça?
Eh bien, certaines communes qui sont traditionnellement les plus touchées, on décide qu'on va priver d'eau d'autres communes qui ont normalement de l'eau à profusion, comme Capesterre-Belle-Eau, Gourbert ou Saint-Claude, pour permettre à ces communes défavorisées d'avoir quelques heures d'eau par jour. Donc ça, c'est la théorie. Sauf qu'en pratique, avec le réseau qui est fuyard de partout, avec des travaux qui sont parfois en cours, avec le défaut de remplissage des réservoirs et des châteaux d'eau, eh bien ces tours d'eau sont pas toujours respectés. On est censé avoir de l'eau pendant 6 heures, parfois ce n'est que pendant 2 heures. Les coupures sont censées ne pas durer plus de 12 heures, parfois ça dure 30 ou 36 heures. Mais le principe, c'est celui-là, c'est celui d'une solidarité. Le gâteau étant plus petit, on essaie de faire des plus petites parts pour tout le monde. Voilà.
Ces problèmes d'accès à l'eau, ça a une conséquence, c'est que les gens veulent plus payer pour un service qu'ils n'ont pas en fait.
Et là, on touche effectivement à quelque chose de très très sensible. Même les gens qui n'ont pas d'eau, ils ne peuvent pas payer une eau qu'ils n'ont pas consommée, mais ils doivent continuer théoriquement de payer l'abonnement. Et même cet abonnement, quand on décortique la part et qu'on voit qu'il y a une part qui est réservée à l'entretien des réseaux, qu'il y a une part qui est réservée aux stations d'épuration et que malgré tout, on a des problèmes d'assainissement et qu'on a des problèmes d'adduction, Parfois, ça fait des factures de plusieurs centaines, de plusieurs milliers d'euros pour certains foyers, parce qu'on remonte très loin dans le temps. Ça passe très très mal. Et on a effectivement une grogne, une bronca de plus en plus importante d'une fraction de la population qui refuse de payer cette eau-là en attendant que le problème soit réglé. Mais c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, malheureusement. Et à l'arrivée, on n'a aucun résultat.
C'est quoi la solution, Jean-Marie Flower? Les citernes, par exemple, c'est la solution pour vous?
Pour une majorité de foyers, c'est-à-dire facilement au moins 100, 120 000, tous ceux qui ne sont pas en logement collectif, c'est une solution. Il restera toujours un besoin de réseau pour les zones densément peuplées, comme Pointe-à-Pitre, où nous sommes. Mais ça représente quelques dizaines de milliers de logements sur les 170 000 de la Guadeloupe. Donc il y a facilement pour deux tiers, voire même un peu plus, 120 000, des solutions accessibles avec un toit et si on a 4-5 mètres carrés au sol pour une citerne. Et ça représente un investissement qui serait bien moindre et donc ça serait des montages financiers beaucoup plus faciles. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ça responsabilise l'usager, parce que sa réserve d'eau, il la connaît, il peut ouvrir la citerne et voir tous les jours. Donc, adapter sa consommation d'eau s'il y a une baisse de pluie, en cas de sécheresse par exemple.
Il y a la question de la distribution, mais il y a aussi celle de l'assainissement. 70% des stations de traitement des eaux usées ne sont pas aux normes.
70%, c'est sans doute assez conservateur comme chiffre, c'est peut-être même beaucoup plus. Et c'est un drame absolu, parce qu'en fait, on oublie de le dire, on devrait mettre un petit écriteau à la sortie de chaque robinet. Ici commence la mer. La mer commence dans la bonde de l'évier, dans la bonde de la douche, dans la bonde de la baignoire. Et malheureusement, les eaux qu'on a utilisées alors pour laver la vaisselle ou le linge, elles arrivent sans traitement suffisant dans les écosystèmes aquatiques, dans les zones humides, dans les rivières. Et malheureusement, les eaux tropicales, qui sont beaucoup plus chaudes que les eaux européennes, elles ont d'office, c'est la physique, elles ont moins d'oxygène. Et donc ça veut dire qu'on est beaucoup plus fragile ici aux pollutions aquatiques. Et ça s'observe dans toutes les rivières, ça s'observe avec les sargasses régulièrement.
Ces algues qui sont toxiques lorsqu'elles se décomposent.
Exactement. On devrait avoir, par rapport à cette fragilité plus importante des eaux tropicales, des normes plus sévères que les normes européennes, qui s'applique puisqu'on est on est dans une région ultra-périphérique. Donc c'est vrai que c'est un problème qui malheureusement impacte surtout les milieux aquatiques, et l'homme n'est pas un animal aquatique, donc loin des yeux, loin du cœur. Il faut être plongeur pour regarder les dommages sur les herbiers, sur les récifs coralliens. Il faut être pêcheur en rivière pour voir qu'on pêche beaucoup moins de crustacés, d'eau douce par exemple. Et c'est ça le drame, effectivement.
Et là, ce matin, on boit de l'eau pétillante en bouteille, de l'eau minérale en bouteille. Et
c'est de l'eau de Guadeloupe, c'est de l'eau de Gourbert. Et donc ça, c'est quand même intéressant de valoriser les ressources locales. Et j'ai toute confiance en l'eau de Capes-d'Olé, par exemple.
Et c'est vrai que c'est pas évident de ne pas avoir d'eau courante, Jean-Marie Flower, quand il fait très chaud, comme aujourd'hui. Alors je connais une petite astuce, une petite alternative pour faire baisser la température. Ce sont les sorbets coco et les granités de Denise. Je l'ai rencontré à l'entrée du parking de la plage du Gosier. C'est la longue file d'attente devant son tout petit stand qui a attiré mon attention.
Bonjour madame, pourrais-je avoir deux snowballs, s'il vous plaît?
Y a pas de souci.
Qu'est-ce que vous faites là, Denise? C'est quoi ce bruit là?
Alors je suis en train de râper la glace pour faire le snowball.
Le
snowball. On dit snowball. Réel, snowball.
Et ça veut dire quoi snowball en créole?
Boule de glace. C'est un peu pareil que la granite. Mais sauf que c'est solide et la granite est un peu liquide.
Qu'est-ce que vous avez commandé, monsieur?
Ma femme qui est guadeloupéenne m'a envoyé chercher, m'a dit blanc et rouge. Moi je sais pas ce que c'est blanc et rouge.
Il y a menthe, orgeat, grenadine et tutu frutti.
Là, vous versez du sirop d'orgeat sur cette glace pilée.
Voilà.
Et vous venez d'où, vous? Si votre femme est guadeloupéenne.
Moi, je suis franco-sénégalais, moi. Mais on est des Parisiens.
Vous êtes là pour les vacances?
Ouais, exactement. On est venu voir sa famille. Ouais, je suis un guadeloupéen d'adoption. Comme ils sont très accueillants, ils nous acceptent.
Vous avez déjà la femme. Est-ce que c'est votre première fois en Guadeloupe?
Non, c'est pas la première fois. J'étais venu il y a 17 ans.
Ah, seulement il y a 17 ans?
Ouais, il y a 17 ans.
Ça a changé depuis?
Ouais, mais c'est toujours aussi bien. Voire même mieux. Les gens sont encore plus sympas. Parce que c'est après le confinement, ça doit être pour ça.
Il y a le plaisir de se retrouver.
C'est ça, exactement. Et le soleil.
Je vous remercie.
Merci, madame.
Moi, Denis, je vais vous prendre votre spécialité, hein, le sorbet coco.
D'accord.
Alors, comment vous procédez pour ce sorbet coco, Denis?
Je fais moi-même. Hein. Vous connaissez la noix de coco?
Ah oui, alors, le fruit.
Je récupère la noix de coco.
La chair blanche?
Oui, la chair blanche. J'extrais le lait dans une centrifugeuse. et j'aromatise avec du zeste de citron, de la cannelle, de la vanille et juste un petit peu d'amande amère. C'est prêt.
Oh là, mais c'est énorme. Je vais plus avoir faim pour la journée, là. Oh, c'est un délice, ça.
J'extrais le lait du noix de coco. Je mets dans le bac de la sorbetière.
C'est comme un seau en bois, quoi.
C'est comme la baratte. Mais sauf que il faudrait mettre du sel et de la glace. Si je ne mets pas le sel et de la glace, je peux tourner toute l'année. La composition ne va jamais se durcir. C'est la combinaison des deux. D'accord. Le sel plus la glace.
Bonjour, je vais prendre celui à 3 euros, c'est ça ?
3 euros, s'il te plaît. Tu t'appelles comment ? T'as quel âge ?
Moi, je m'appelle Dominique, j'ai 15 ans et je suis en vacances en Guadeloupe car j'habite en France. Avant, j'habitais en Guadeloupe. Maintenant, ça fait 2 ans que j'habite en France.
Ah ouais ? Ouais. Et tu reviens donc au pays, quoi ?
Ah oui, comme toujours.
Ça te manque ?
Ouais, ça manque. C'est très important.
Ça représente quoi pour toi, le sorbet coco ?
C'est la Guadeloupe, l'archipel, tout.
Bah, bon appétit. Hein.
À vous aussi. Dégustons le sorbet au coco.
Avec plaisir. On est bien, là ?
On est bien. En face de la mer, le soleil. Nickel, rien à dire.
Rendez-vous place du marché. Sur France Inter.
Comment espérer un paradis quand tu reviens des enfers? Les mensonges créent des légendes, mais pas des hommes légendaires. J'ai comblé le manque par l'excès, abusé du bon comme du mauvais. Non, le monde n'est pas injuste, il est juste comme on l'a fait. Tu sais, le succès ça isole. Mes rêves d'enfant dans ma camisole. Tu peux aligner des mots sans rien dire de toi. On se voit tous les jours, on se connaît pas. Liguer les uns contre les autres. L'égoïsme en mode survie. Et si on veut que ça bouge, c'est pour les nôtres. C'est maintenant, il faut pas attendre ici. Pour l'instant, je danse, danse, danse. Je pense à rien. Pour l'instant, je danse, danse, danse. Je pense à rien. J'attends que tu me tends, tends, tends. Me tends la main. Quand je danse, 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 je pense à rien. Et sans doute qu'il y a quelque chose en toi qui t'éloignerait des doutes et de Pôle emploi. Une envie, une passion, une découverte, une promesse, une rencontre, une phrase toute faite. On espère des jours meilleurs, de gagner au loto sans même y jouer. On se contente de financer l'amour en produits dérivés. Se mettre à prier sans même y croire, pendant qu'on consomme de belles histoires. Les enfants du monde nés pour s'aimer. On divisait la terre en territoires, changer l'eau en vin, le plomb en or. Trouver des plans cul comme réconfort. Nos cœurs et nos esprits en désaccord. Alors on sort la nuit, on s'évapore. Pour l'instant je danse, danse, danse. Je pense à rien. Pour l'instant je danse, danse, danse. Je pense à rien. J'attends que tu me tends, tends, tends. Me tends la main. Pour l'instant je danse, danse, danse. Je pense à rien. Dans nos cœurs il fait froid. Dans nos cœurs il fait froid. C'est pas un film qu'on vit, non. Arrête ton cinéma. Dans nos cœurs il fait froid. Je pense à c'est des bounas. Laramie, Mouchine, Adama, Ange du Binécha. Pour l'instant je danse, danse, danse. Je pense à rien. Pour l'instant je danse, danse, danse. Je pense à rien. J'attends que tu me tends, tends, tends. Me tends la main. Pour l'instant je danse, danse, danse. Je pense à rien. Pour l'instant je danse, danse, danse. Je pense à rien. Pour l'instant je danse, danse, danse. Je pense à rien. J'attends que tu me tends, tends, tends. Me tends la main. Pour l'instant je danse, danse, danse. Je pense à rien.
C'était Giorgio avec Danse.
Antoine Lee.
Vous écoutez France Inter, c'est Rendez-vous Place du Marché à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Pierre-Jean-François, habitant de Pointe-à-Pitre, est resté avec nous car le sujet que l'on va aborder l'intéresse beaucoup, c'est le dépeuplement de la Guadeloupe et comment y faire face. Pour nous en parler, deux nouveaux invités, Nadège Sarah et Yann Serranton. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Yann Serranton, vous êtes le directeur de l'association Aller Vini Guadeloupe. Ça signifie aller revenir en créole, c'est bien ça ?
Je suis président de l'association Aller Vini Guadeloupe qui veut effectivement dire aller revenir.
Justement, quel est le but de votre association ?
Bah en fait, le but de notre association, c'est de justement promouvoir la Guadeloupe comme une destination pour les Guadeloupéens qui souhaitent s'insérer durablement. Parce qu'on a constaté, hein, c'est un constat que tout le monde fait, hein, dans une classe d'âge, on est une dizaine, un soir avec des copains comme ça, à un bar, on se disait, alors comment tu vas, où un tel ? Ah, un tel est à Singapour, un tel est au Maroc, un tel est en Paris, un tel... Et puis on se disait que finalement, on n'était plus que deux. Sur une classe de terminale, on était 30. Donc on a cherché à comprendre.
Sur 30 élèves, il n'y en avait plus que deux qui étaient ici en Guadeloupe.
Complètement.
Et tous les autres étaient partis ailleurs.
Partis partout. Et puis on comprenait pas trop. On se disait, mais c'est quand même assez grave. Et on s'est dit, non, mais il y a certainement une étude, il y a un truc qui a été fait. Et on a commencé à googler comme ça sur notre téléphone. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien du tout qui avait été fait. Et là, on s'est dit, mais mince, il se passe quelque chose. Alors, en parallèle, il y avait des études de l'INSEE qui étaient assez catastrophiques. Je veux dire, par exemple, aujourd'hui, vous avez une étude de l'INSEE qui vous dit qu'en 2010, il y avait 14 000 jeunes hommes guadeloupéens de 35 ans. Aujourd'hui, vous en avez 7 000.
Il faut pas croire que c'est uniquement la métropole qui attire les Guadeloupéens. Il y a aussi le Canada, plus précisément le Québec, qui mène une grosse campagne pour attirer dans leur région les cerveaux de la Guadeloupe. Comment ça s'explique ça, que le Canada essaie de séduire autant les Guadeloupéens ?
Ça vient depuis l'origine du phénomène migratoire. C'est-à-dire que depuis les années 60, pour pallier aux problématiques de chômage du territoire guadeloupéen, et en même temps par rapport aux besoins de main-d'œuvre qu'il y avait dans l'hexagone parisien, il fallait, par rapport à l'ascenseur social, les Parisiens ne voulaient plus faire les petits boulots, femmes de ménage, personnes qui travaillent à la RATP ou à la Poste. Donc, ils ont fait venir les Guadeloupéens. Donc, parce qu'il y avait plus de 60% de chômage à l'époque.
Ça, c'était à cause de la crise de la canne à sucre.
La Guadeloupe, c'est un petit pays. La Guadeloupe a seulement 180 ans à peu près de développement, puisqu'avant, c'était une société esclavagiste. Donc, aujourd'hui, pour faire face à cette difficulté, les gouvernements successifs ont encouragé le départ comme étant une solution. Et il est vrai que, si vous voulez, au début des années 2000, il y a eu des présidents de région qui ont signé une convention avec le Canada dans ce même état d'esprit. La difficulté, c'est que quand on part au Québec, on a un diplôme québécois avec des normes québécoise. Par exemple, dans les ressources humaines, on va apprendre du droit social canadien. Dans le bâtiment, on va apprendre des normes du bâtiment nord-américaines. Donc, comment faire pour revenir au pays avec de tels diplômes ? Donc, on a toute une diaspora guadeloupéenne qui est en train de se constituer par cet appel d'air, tout simplement parce qu'on a pensé que la mobilité était une solution au développement du pays, et on constate que ce n'est pas une réalité.
Et justement, Yann Serranton, comment, avec votre association Allez Vini Guadeloupe, comment vous faites pour stopper cette hémorragie, pour inciter les Guadeloupéens de métropole à revenir sur l'archipel ?
Alors déjà, nous, seuls, on est une association, on ne pourra pas faire un travail que des institutions, c'est un boulot d'institution. Nous, on est surtout un lobby, c'est-à-dire que notre objectif est de faire en sorte que les pouvoirs publics, puisque c'est un problème à la fois politique, citoyen et économique, fassent le travail de faire revenir les forces vives. Donc comment on fait ? Notre idée, c'est d'abord de créer une plateforme numérique qui permette aux Guadeloupéens qui sont dans l'Hexagone de voir l'offre de formation qui existe en Guadeloupe et l'offre d'emploi, parce que il y a des emplois qui existent sur le territoire. Il y a beaucoup de, par exemple, on cherche énormément sur les fonctions support. Je donne un exemple simple. Souvent, on cherche des directeurs financiers, que ce soit dans les collectivités. J'ai entendu tout à l'heure, quand on parlait de la problématique de l'eau, on cherche beaucoup de techniciens dans le domaine de l'eau. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y avait des formations pour ça en Guadeloupe? Non. Donc, il faut mettre en adéquation l'offre de formation avec les besoins réels du territoire. Ça s'appelle la JPEC territoriale. Donc on milite pour que celle-ci soit faite soit par l'État et par la région. On milite également aussi pour faire en sorte de déconstruire les raisonnements qui disent que la métropole, c'est l'Eldorado, c'est la fin. Non, c'est pas une fin en soi. On milite également aussi pour valoriser les potentialités du territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mer, le vieillissement de la population sont des enjeux, mais aussi des potentialités économiques. Donc ça veut dire des sources d'emploi et de richesse et d'accomplissement professionnel. Donc voilà un peu la dynamique que nous créons avec l'espoir aussi de ce que nous voulons vraiment en tant que lobby associatif. C'est que l'État, avec les régions, s'associe pour créer un établissement public avec les associations pour justement faire le sens inverse de la DOM, c'est-à-dire accompagner les ultramarins dans leur retour au pays avec des aides à la mobilité, des aides à l'installation et des informations institutionnelles pour la création d'entreprises.
Pour être tout à fait honnête et sans vouloir être désagréable, c'est vrai que lorsqu'on arrive à Pointe-à-Pitre, on est loin de la carte postale quand même. Là, les bâtiments sont assez délabrés, sont vétustes, on ne peut pas dire que ce soit très accueillant.
Mais là, vous voyez quelque chose de pas accueillant. Moi, je vois un potentiel énorme, en vérité. Puisque si le pays s'est vidé de son intelligence en nourrissant les métropoles, forcément, il n'y avait plus personne pour pouvoir penser Pointe-à-Pitre. Il n'y avait plus personne pour pouvoir construire Pointe-à-Pitre. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité. Pointe-à-Pitre, telle que vous la voyez aujourd'hui, moi, dans 10 ans, je la vois comme une belle ville qui soit éco-responsable. Une ville où on se déplace à pied, à vélo, en trottinette, avec des bornes, avec des toits photovoltaïques, avec un assainissement qui est sain. et plein de commerces. Aujourd'hui, on peut penser comme ça à Pointe-à-Pitre si on fait revenir les forces vives et les capacités de production locales à Pointe-à-Pitre. Et non des, bah, alors certes, Pointe-à-Pitre n'est pas attractive, mais je pense que ce problème que nous connaissons en Outre-mer, c'est un problème de la ruralité d'une manière générale face aux métropoles. Les grandes métropoles, elles captent l'énergie des jeunes pour se construire. Elles font penser que la société, la culture, eh bien c'est la culture, ben, on va dire, des stades avec Kylian Mbappé. Ben oui, tu n'as pas Kylian Mbappé à portée de main comme nous. Tu vas au parc, on le voit. Tu n'as pas Jamel Debbouze. Vous voyez, et ça, comme si que notre gros cas, comme si que notre pêche de crabe, c'était de la sous-culture, un peu comme le disaient les rappeurs dans les années 90. C'est pas de la sous-culture, c'est de la culture de la ruralité. Et c'est celle-là aussi que nous devons défendre quand on veut parler d'attractivité de notre territoire.
Nadège Saha, vous avez quitté Lille plusieurs années, puis en 2015, vous êtes revenu. Est-ce que vous pouvez nous résumer rapidement votre parcours ? Vous êtes née d'abord en métropole, à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis.
C'est totalement ça. Donc, je suis née à Montfermeil. Et pour ce qui est de mon parcours, donc, j'ai deux masters en coopération internationale. Et donc, je m'intéresse vraiment à toutes ces questions liées à la coopération internationale et également aux politiques jeunesse.
Alors, vous avez beaucoup vécu à l'extérieur de l'archipel. Et qu'est-ce qui vous a poussé à revenir ici en Guadeloupe en 2015 ?
Alors en 2015, j'étais en fin de mission à l'ambassade de France en République dominicaine où j'étais chargée de coopération pour le compte de la collectivité régionale. Donc j'étais en charge de faire du lobbying un peu, on peut dire, pour la Guadeloupe en République dominicaine. Et après 2 ans de mission, la question s'est posée, qu'est-ce que je fais après mes 2 ans de mission ? Est-ce que je continue sur le territoire ou est-ce que je rentre en Guadeloupe ? J'avais une opportunité pour rester en République dominicaine à la délégation de l'Union européenne là-bas. Mais voyant en fait cette opportunité et la possibilité que j'avais de rentrer en Guadeloupe, je me suis dit je vais rentrer et que de toute manière, vu que j'avais été à l'ambassade, forcément quand je rentrerai en Guadeloupe en 2015, je trouverai facilement du travail.
Nadège Saha, vous avez écrit un livre, vous êtes l'auteur du livre « C'est décidé, je rentre en Guadeloupe » et rien ne l'empêchera. Pour quelle raison vous avez voulu écrire cet ouvrage ?
Alors, l'idée n'est totalement par hasard. Je me suis jamais réveillée un jour en me disant « Tiens, j'ai envie d'écrire un livre, je vais devenir écrivaine ou quoi que ce soit ». C'est au détour en fait d'une discussion avec mon frère et sur les réseaux sociaux qui m'a interpellée sur la possibilité d'écrire sur mon parcours. Parce que finalement, on parle beaucoup du retour au pays, on parle beaucoup des personnes qui partent, mais on ne sait pas. Il n'y a pas d'écrit en tout cas en la matière. Et c'est là où je me suis dit ça peut être une idée en fait, une façon d'apporter ma pierre à l'édifice et de parler de ce parcours qui n'est pas un parcours idyllique, loin de là. C'est un parcours qui a été très très difficile, ponctué de précarité, ponctué de déception, de désillusion.
Oui, parce que lorsque vous êtes revenu, vous avez connu 2 ans de précarité, de chômage.
Exactement. Et c'est ce que j'ai aussi eu envie de raconter, c'est-à-dire que le parcours du retour n'était pas simple, mais finalement, avec une détermination, avec une volonté aussi, puisque bon, il faut avoir la volonté de rentrer. Et c'est là où je me suis dit, peut-être que ça va inspirer d'autres. Et c'est comme ça que le livre est né.
Pierre-Jean-François, vous avez connu, vous, le départ et le retour en Guadeloupe ?
Oui, alors moi, c'est pas vraiment la même chose parce que je suis né en Guadeloupe. Et je me sens profondément attaché à ma terre. Je suis parti pour mes études. Attention, rien ne m'aurait fait rester en France. Rester en France, j'aurais vécu ça comme un échec. Et pour moi, l'expression « nul n'est prophète en son pays », je n'y crois pas. Moi, je veux être prophète chez moi. Peu importe ce que j'aurais fait en Guadeloupe, je l'aurais fait et ça aurait marché. Donc moi, je demande aux gens quand même d'avoir une certaine volonté. Il ne faut pas que nos diplômes deviennent des boulets. On n'est jamais assez diplômé. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui a trop de diplômes. Qui peut le plus, peut le moins. Donc moi, je pars de ce principe. On est en Guadeloupe. Je ne suis pas que podologue. Alors il s'avère que maintenant, pour parler de la podologie, quand j'ai postulé dans toutes les cliniques, ça a marché. Et donc, je me retrouve à crouler sous le travail.
Donc, c'est ce que disait Yann.
Oui, je me retrouve...
Il y a une vraie demande.
Oui, je me retrouve littéralement à crouler sous le travail. Mais attention, si ce n'était pas le cas, j'aurais travaillé. Dans quoi, je ne sais pas.
Nadège Saha, vous, avec votre livre notamment, vous voulez casser cette idée bien ancrée dans la tête des jeunes qui sont en métropole que revenir sur l'île serait synonyme d'échec. Pierre, Jean-François y a fait allusion.
C'est effectivement cela, hein. C'est-à-dire qu'on a souvent en fait été bercé par les parents qui considèrent que le fait de faire le chemin inverse, qu'on soit parti au Canada ou en France hexagonale ou ailleurs, quand on revient en Guadeloupe, c'est synonyme d'échec. Et moi, ce que j'ai eu envie de démontrer à travers mon bouquin, même si j'ai connu un parcours qui n'est pas simple, un vrai parcours du combattant, c'est qu'il n'est pas impossible de s'insérer en Guadeloupe à condition de vraiment le vouloir. Souvent, on va trouver des jeunes qui vont se mettre des obstacles, qui vont se mettre des barrières pour ne pas pouvoir rentrer. Ils vont se dire, bon ben voilà, il n'y a pas d'opportunité professionnelle, ou la Guadeloupe c'est petit, ou il se passe tellement de choses en fait qui empêchent ce retour. Et au final, quand on discute avec ces personnes, on se rend compte que c'est cette peur de l'échec. Alors que finalement, l'échec, c'est pas une fatalité et ça nous permet de rebondir autrement. Et c'est vraiment ce que j'ai eu envie de démontrer à travers ce bouquin.
Et dans votre livre, vous donnez des conseils en direction de ces jeunes pour essayer justement de les rassurer.
Alors ça, c'est des conseils qui peuvent être vraiment très basiques. Par exemple, il y en a un qui est transversal, qui est de ne pas s'occuper du regard des autres. Parce qu'on se rend compte que le regard des autres, c'est un regard qui est très malveillant, où quand on va rentrer, on va avoir des gens à qui on a rien demander et qui vont vous dire par exemple que la Guadeloupe c'est petit, qu'il ne faut pas rentrer, qu'il ne faut pas faire ci, qu'il ne faut pas faire ça. Ça peut paraître basique, mais il faut pouvoir l'intégrer parce que ce regard des autres qui est tellement malveillant peut nous empêcher parfois d'atteindre certains objectifs.
Nadège Sarr, vous avez fait des séances de dédicaces pour votre livre et vous avez rencontré à cette occasion des parents de jeunes Guadeloupéens qui vivent en métropole. Alors certains vous ont beaucoup ému, racontez-nous.
Bah, ce qui m'étonne hein, jusqu'à maintenant, depuis que le livre est sorti le 21 janvier 2021, c'est ça. C'est ces séances de dédicaces où je rencontre des gens. Alors pour moi, j'étais partie sur l'idée que j'aurais rencontré beaucoup de jeunes de retour au pays. Et rencontrer des parents, ça ne m'avait pas du tout traversé l'esprit. Et c'est là où je me rends compte que cette problématique ne touche pas seulement les jeunes, mais elle touche aussi les parents. Et je me souviens d'une maman qui était limite en pleurs devant moi, en train de me dire mais que son fils est ingénieur là-bas, qu'il a envie de rentrer en Guadeloupe, mais qu'il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment faire parce que voilà, il est en pleine période de dépression à la limite et qu'il ne sait pas par quoi s'y prendre, comment s'y prendre. Et elle me dit, à travers donc le livre et à travers la dédicace que j'ai écrit, s'il y a moyen de le motiver et tout. Et je me suis dit, mais finalement, écrire rien qu'un bouquin comme celui-là peut vraiment débloquer certaines choses. Alors j'espère en tout cas que ce jeune-là aura la volonté de rentrer. Mais on sentait vraiment chez la maman cette incapacité à faire comprendre à son fils qu'il peut venir, parce que le fils considérait que comme il a fait des études d'ingénieur, pour lui, non, il n'y aura rien pour lui ici, alors que pas du tout.
On a l'impression qu'il y a un fort sentiment de culpabilité chez ces jeunes qui sont en métropole. Yann Serranton.
Aujourd'hui, quand votre fils vous dit « Maman, j'ai envie de rentrer », comme le disait Nadège dans l'Hexagone, moi j'ai des centaines de témoignages. Tous les jours, entre 5 et 6 personnes nous contactent via notre page Facebook pour nous dire « On a envie de rentrer, on n'en peut plus, on étouffe. Moi, je vis en 20 mètres carrés avec le confinement, j'en pouvais plus, je veux rentrer chez moi. Mais je ne sais pas comment faire, j'ai 2-3 enfants. » Enfin bref, des situations complètement délirantes. Mais aujourd'hui, parfois, comme disait Nadège, simplement le déclic. « Vas-y, pourquoi tu as peur ? Qu'est-ce que, de quoi tu as peur ? Tu vas y arriver. »
Pierre-Jean-François, ça vous fait réagir, hein, tout ce que vous entendez là.
Oui, tout à fait, parce que je pense que pour trouver l'origine de ce départ poussé, quelquefois, c'est une origine qui est quand même bien enracinée. Il faut savoir que de tout temps, l'étudiant antillais est préparé au départ. Comme disait Yann, par rapport au fait que l'offre de formation, l'offre aux études supérieures est un peu limitée en Guadeloupe. Et puis, nos parents nous ont toujours un peu incités à partir pour aller voir ce qui se passe ailleurs, parce que persuadés eux-mêmes que sur le territoire, il n'y a pas grand-chose. Sous le territoire, il n'y a pas vraiment d'avenir. Et même une fois que l'enfant est diplômé, on nous demande de rester, prendre de l'expérience. C'est-à-dire que ne peut rentrer en Guadeloupe que quelqu'un diplômé avec expérience. Mais il faut savoir que quand on se retrouve donc en métropole à 25-30 ans, on a rencontré quelqu'un, bien souvent, on fait sa famille. Et c'est beaucoup plus difficile après de rentrer là où il fallait prévoir un emploi, il faut en prévoir deux pour le conjoint. Il faut prévoir la place des enfants et on se dit, l'enfant il est là, il a 4-5 ans, plutôt que d'anticiper son départ dans quelques années, on est déjà là et puis quand il sera autonome, on va rentrer. Mais c'est faux, les gens ne rentrent jamais. Et même quand ils rentrent, parce que moi j'ai des expériences, même quand ils rentrent à la retraite, quand on a fait toute une vie à l'extérieur, on n'est plus à sa place. Après, il faut aussi pouvoir adapter ce qu'on a pris là-bas, parce que partir faire des études, c'est prendre un savoir, adapter le savoir qu'on a pris à notre territoire. Et là, pour moi, c'est là qu'elle est l'intelligence.
Pierre-Jean-François, lorsque vous avez été en métropole pour vos études, oui, vous êtes senti déraciné ?
Ah, totalement. Français, certes, mais du tout pas à sa place. Et là, je me suis dit, je veux mon diplôme, ça sera mon passeport pour le retour. Donc, peu importe ce que je veux faire, tout tournait autour de l'obtention de ce sésame, de ce billet retour. Et je me souviens, quand j'ai pris mon billet retour pour rentrer en Guadeloupe, donc j'arrive à l'agence et je demande à cette dame un billet retour. Eh bien, elle n'avait jamais entendu l'expression, elle s'est mise un peu à rigoler parce qu'on entend toujours des allées simples, mais des retours simples, elle ne connaissait pas. Et donc, moi, je voulais absolument rentrer chez moi. Et c'est cette détermination qui fait tout. Donc, il faut aussi intégrer le fait que du travail, il y en a, il ne faut pas écouter les autres. Et moi, mon caractère fait que plus on me disait que c'est difficile, eh bien, plus on me boostait en fait.
Vous nous l'avez dit tous les trois, la Guadeloupe regorge de trésors. Restez avec nous car on va parler dans quelques minutes de deux d'entre eux. Le gros cas, un genre musical très important ici. Et bien sûr, le rhum avec vous, Pierre-Jean-François. Vous nous ferez goûter l'une de vos 2000 bouteilles.
Soleil, soleil, la cachouffée. Pressé pour nous descendre en ville, nous caïcouïvité. Tcha, 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 koumbé. Tcha, 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 koumbé. Tcha, 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 koumbé. Tcha, 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 koumbé. Tim, mama, est pressé. Musique l'a commencé.
C'était David Martial avec Jerk Vidé.
France Inter. Rendez-vous place du marché. Antoine Lee.
On est à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, à la terrasse du café au pied du fort, face au marché aux épices. Tous nos invités sont restés car c'est bientôt l'heure de l'apéro. Et en Guadeloupe, qui dit apéro dit rhum, n'est-ce pas Pierre-Jean-François ?
C'est incontournable.
Et vous allez nous faire déguster un sacré rhum dans quelques instants. Mais avant de déguster justement l'une de vos bouteilles, on va accueillir Rudy René pour nous parler du gros cas. Bonjour.
Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour France Inter.
Rudy René, vous êtes musicien et vous êtes l'un des meilleurs experts du gros cas. Vous êtes le président de la Fédération du gros cas en Guadeloupe. C'est quelque chose de très important ici. De quoi s'agit-il ?
Alors le gros cas en lui-même, c'est l'étendard d'un pays. Un peuple qui n'a pas sa propre musique n'est pas un peuple. Il n'a pas ses racines. Nos racines, quelque part, ont été vraiment enterrés dans cette terre de Guadeloupe par rapport à cette dimension gros cas. C'est-à-dire qu'on reprendra la genèse, quelque chose de simple. Lors de la déportation, mise en captivité lors de la déportation, la codification, l'âme de cette musique, à travers plusieurs ethnies, prendra naissance en Guadeloupe, ce qui donnera le Gros Cas et les sept tribus du Gros Cas.
Quand vous parlez de déportation, vous parlez des esclaves?
Oui, tout à fait. Des esclaves qu'on a capturés après mise en esclavage, où cette musique, quelque part, va en découler. On va dire que c'est une musique de résistance.
Alors, vous nous avez dit que c'est un mélange des différentes ethnies présentes en Guadeloupe pendant l'esclavage. Ces ethnies se confrontaient musicalement?
Non seulement musicalement, mais je dirais pacifiquement. Ça veut dire que le côté pacifique chez nous est quelque chose d'important.
Alors, pour qu'on ait une idée de ce qu'est le Gros Cas, vous avez accepté de nous jouer un morceau. Alors, pour ça, vous êtes venu avec deux instruments. Il s'agit de quoi au juste? Ce sont des tambours, des tam-tams? Comment on pourrait décrire ça?
On va faire un aspect pédagogique. Le tambourier, c'est celui qui va jouer au tambour. Alors, le tambour, principalement, où j'ai, on va dire que c'est un marqueur. Et juste à côté, le son plus mat, c'est un boula. Alors, pour avoir un bon marqueur, il faut utiliser la peau de femelle de cabri.
Le mâle, c'est pas possible?
Le mâle, non, parce que la peau est beaucoup plus épaisse. Vous comprenez, y a la voix qui ressort et naturellement, c'est pas pareil.
On va vous écouter pour bien comprendre ce qu'est le Gros Cas, Rudy René. Formidable, merci beaucoup, merci. Bah, y a Nadège et Yann qui se sont improvisés choristes, Pierre aussi. Merci Rudy. Alors ça fait 42 ans que vous jouez du Gros Cas. Vous avez formé un groupe qui s'appelle Caz. Au départ, le Gros Cas était très mal vu. Hein. On disait que c'était un truc de voyou. Il y a même une expression créole pour ça, non?
Alors une expression guadeloupéenne, créole, comme vous voulez. Musique à vieux nègres. Alors je dis...
Ça veut dire quoi?
Des vieux nègres, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas... de bonne souche, les gens, je dirais, du bas peuple, de mauvaise fréquentation.
Et ça avait même été interdit à une époque. Pour quelle raison?
Il faut dire que jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes sur un système colonial, il faut le reconnaître, où l'État français a une mainmise sur la Guadeloupe. Bon, c'est pas pour nous desservir, ça nous arrange quelquefois. Mais le Gros Cas, quelque part, d'abord, est une musique de résistance. Et cette musique de résistance conscientisait le peuple. Et il fallait pas conscientiser ce peuple pour qu'il ne puisse pas se révolter. Alors c'est vrai que sur les radios de l'État français, elle était interdite.
Bah aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et d'ailleurs, dans les années 60, le Gros Cas a retrouvé ses lettres de noblesse. Comment on est passé d'un genre musical qui était dénigré, décrié, à une musique qui aujourd'hui habite tous les Guadeloupéens?
Alors, il faut savoir que le milieu nationaliste, indépendantiste, c'est vraiment, vraiment impliqué pour que le Gros Cas puisse reprendre ses lettres de noblesse sur cette terre de Guadeloupe. En disant, cette musique, il faut qu'on la mette devant parce que c'est notre étendard.
Et aujourd'hui, le Gros Cas est l'une des grandes fiertés des Guadeloupéens. En 2014, c'est la consécration. Le Gros Cas est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça représente quoi le Gros Cas aujourd'hui pour les Guadeloupéens?
Il est vrai qu'avec... son inscription à l'UNESCO, ça amplifiait les choses. On peut dire que le Gros Cas, il est vraiment de Guadeloupe. Ça veut dire que si un autre territoire ou un autre peuple veut se l'approprier, il ne pourra pas le faire. C'est juste ça.
Yann Serranton, tout à l'heure, vous avez chanté spontanément avec Rudy René. Ça représente quoi pour vous le Gros Cas?
Bon, en fait, pour moi, le Gros Cas, c'est une partie de moi-même, en fait, puisque ça fait partie de ma culture. Je suis né avec. Et en fait, l'idée, c'est que le côté rebelle du Gros Cas, c'est que justement, quand moi j'étais petit, c'était exactement ce que Woody Wanné disait. C'est une musique à vieux nègre. Donc, on nous a pas enseigné. Alors que moi, à mes enfants, ben, je l'enseigne. J'ai un tambour à la maison. Ma fille pratique la danse, comme ma femme. Et c'est véritablement quelque chose qui est ancré en nous, aujourd'hui, dans notre génération, qu'on veut revendiquer.
L'autre fierté de la Guadeloupe, c'est bien sûr le rhum. Pierre-Jean-François, vous êtes un passionné de ce breuvage. Et ça, c'est un euphémisme que de le dire. Vous collectionnez les bouteilles, vous en avez 2000, c'est ça?
Globalement, oui. J'en ai peut-être un peu plus, mais je ne les ai pas comptées à l'unité.
C'est quoi votre rêve avec ces bouteilles?
monter un musée du rhum guadeloupéen pour montrer donc déjà à nous qu'il y avait plus de 170 distilleries en activité en Guadeloupe dans les années 30 et que justement on a évoqué plusieurs sujets avec plusieurs invités sur l'emploi, l'exode des jeunes. Eh bien, le rhum gardait ces gens en Guadeloupe parce que source de centaines de milliers d'emplois dans les années 30.
Pierre-Jean-François, vous nous avez apporté une bouteille de rhum, l'une de vos préférées. Il s'agit de quoi au juste ?
C'est une distillerie de Marie-Galante, une distillerie Biel, qui a été reprise par Dominique Thierry en 1975 et qui en a fait l'une des meilleures distilleries de la Caraïbe, gustativement, j'entends.
Vous allez nous la faire goûter ? Oui. Ça vaut combien une bouteille comme ça ?
C'est une bouteille de 70 centilitres.
Et ça coûte combien ?
Alors, quand c'est sorti en 2015, elle était à 45 euros. Et maintenant, le prix du rhum ne cesse de monter. D'ailleurs, c'est devenu, entre guillemets, un placement financier. Et maintenant, on serait aux alentours de 400 euros minimum.
Ah bon ? C'est de l'or qu'on boit, quoi ?
Oui, c'est un billet qu'on a déchiré ce matin pour pouvoir déguster, tout à fait.
Est-ce qu'on peut le déguster, votre rhum ? Moi, j'en meurs d'envie.
Bien sûr, tout à fait, voilà.
Et pas parce que vous m'avez dit qu'il coûtait 600 euros. Hein.
Non.
Alors, comment ça se déguste, un rhum comme ça ?
Alors, je vous explique. Le rhum se prend dans un verre tulipe. D'accord. Avec des fesses larges et une cheminée pour les arômes. Quand on l'a versé, il ne faut surtout pas le boire directement, parce que là, il va brûler. On va le laisser s'aérer une vingtaine de minutes. Donc là, le verre que vous avez devant vous, je l'ai préparé depuis un petit moment déjà, donc il est prêt à être dégusté. Et quand on va le déguster, il ne faut surtout pas l'avaler, il ne s'agit pas de le verser dans la bouche. On va juste humecter un petit peu les lèvres, faire corps avec le produit et l'avaler lentement. Il ne va rester que les arômes et le plaisir de dégustation.
Bon, je me lance. Hein.
Allez-y.
Bah déjà, au nez, c'est juste magnifique.
Oui. Donc, au nez, on va prendre des odeurs de pain d'épices, de réglisse, de sucrosité.
Je vais le goûter.
Allez-y.
Alors, on rappelle que, voilà, ça se consomme avec modération,
bien
évidemment.
Bien évidemment. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'alcoolisme. Je fais juste l'apologie des arômes et du breuvage exceptionnel qu'on a sous nos latitudes en Guadeloupe.
Alors, je goûte. C'est juste magnifique.
Voilà. Il ne brûle pas. Il ne pique pas.
Pierre-Jean-François, lorsque vous dégustez, lorsque vous sentez ce rhum glisser, couler le long de votre gorge, qu'est-ce que vous ressentez ? Ça représente quoi pour vous ?
Eh ben, j'ai l'impression de boire la Guadeloupe. J'ai l'impression que je m'enivre de chez moi. Et tant qu'à s'enivrer, autant s'enivrer d'un produit de très haute qualité gustative, de très haute valeur ajoutée, qui peut sans aucun problème se retrouver sur de très grandes tables, Bocuse, de très grands restaurants, des chefs étoilés. Voilà. Au même titre que les grands cognacs, les grands vins, les grands champagnes.
Alors maintenant, on va parler des sujets qui fâchent.
Oui.
C'est quoi le meilleur rhum entre celui de la Guadeloupe et celui de la Martinique ?
Ah ça, je ne peux pas répondre à ça. Je collectionne aussi bien des bouteilles de Guadeloupe que de Martinique. Je suis en permanence au téléphone avec des amis de la Martinique. De manière purement chauvine, je dirais la Guadeloupe, mais objectivement, chaque rhum a sa couleur, chaque rhum a son ADN, et c'est aux fonctions des sensibilités de chacun.
Pierre-Jean-François, on pourra vous voir dans un formidable documentaire de Blaise Mengiwa qui s'appelle Guadeloupe, terre de Rome et des hommes. On pourra le voir prochainement au cinéma et sur Canal+. Merci beaucoup Pierre-Jean-François, surtout pour cette dégustation. Merci à Dominique pour son accueil. Merci à Reza Punewachi et à Alexis Sarini pour leur aide. Merci également à Joël Delvicchio du Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert. Irène Menahem et Raphaël Plusqueva l'ont préparée avec brio et avec l'aide de Julia Martin. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Demain, vous retrouvez Aurélie Sfèze à 6 mort dans le Gers.